Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 24 Tir, 1400 du calendrier iranien, 15 juillet 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information. Ensuite, un commentaire politique. L'Inde désire développer ses relations avec le gouvernement de Ebrahim Raisi. Le président élu iranien réaffirme son soutien à la Palestine contre Israël. Le régime sioniste arrête près de 30 étudiants palestiniens les accusant de terrorisme. Et en Afghanistan, les talibans demandent la libération de 7000 prisonniers contre 3 mois de cessez-le-feu. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président élu iranien Ebrahim Raisi a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, que la seule façon de forcer les sionistes à se retirer des territoires occupés et la résistance. M. Raisi a ajouté que le soutien à la cause palestinienne faisait partie de la politique fondamentale de la République islamique d'Iran. La poursuite du blocus de Gaza est contraire à toutes les valeurs humaines et le silence de la communauté internationale vis-à-vis du massacre de femmes et d'enfants innocents et honteux, a déclaré le président élu iranien. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président malgache Andry Rajoelina ont félicité Ebrahim Raisi pour sa victoire à l'élection présidentielle iranienne. Le président Denis Sassou Nguesso a adressé un message de félicitations à Ebrahim Raisi et a exprimé l'espoir qu'au cours de la présidence de M. Raisi, les deux pays développeraient davantage leur coopération. Le président malgache Andry Rajoelina a adressé lui aussi un message de félicitations à M. Raisi. Dans son message, il a plaidé pour les efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales dans le cadre des intérêts communs des deux pays. L'armée israélienne dit avoir arrêté une trentaine d'étudiants palestiniens après avoir visité la maison d'un prisonnier du Hamas que le régime a démoli la semaine dernière. L'armée israélienne a accusé les étudiants d'être des terroristes. Il les accuse d'avoir transféré de l'argent au mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, et d'avoir organisé ses activités en Judée-Samarie. Les étudiants sont issus de l'université de Bir Zeit en Cisjordanie occupée. L'université a condamné leur détention, qualifiant la mesure de violation de toutes les lois et normes internationales qui garantissent le droit des étudiants à la liberté de mouvement. Le Hamas a décrit la décision israélienne comme une tentative misérable de nuire à l'esprit de la résistance parmi les Palestiniens et a sapé le soutien aux familles des prisonniers, des martyrs et des blessés. Le nouveau premier ministre israélien a relancé un projet controversé de construction de plus de 3400 maisons en Cisjordanie occupée. C'est la première initiative controversée de ce type depuis l'établissement du nouveau gouvernement dirigé par Naftali Bennett, qui continue à saboter les possibilités de paix et renforcer l'occupation, selon les commentateurs. L'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou a également tenté de faire avancer le projet, mais il a été interrompu sous la pression de la communauté internationale, de l'autorité palestinienne et des groupes de défense des droits de l'homme. Le projet devrait également susciter des objections de la part des partenaires de la coalition de gauche du premier ministre Naftali Bennett ainsi que les États-Unis. Toutes les colonies israéliennes sur les terres palestiniennes occupées sont illégales au regard du droit international. Les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération d'environ 7000 de leurs membres détenus dans les prisons afghanes. Les talibans ont également souhaité que les noms de leurs dirigeants soient retirés de la liste noire de l'Organisation des Nations Unies. Cela intervient alors que le groupe a intensifié ses attaques contre les villes et les villages depuis le mois de mai. Les talibans ont également capturé plusieurs postes frontaliers, notamment avec le Pakistan, l'Iran et le Turkménistan. L'armée afghane a lancé des offensives pour reprendre les zones capturées par le groupe. Des dizaines de membres des talibans auraient été tués lors de ces opérations. Le président cubain a appelé à la paix, à l'harmonie et au respect au milieu des manifestations antigouvernementales à travers le pays. Miguel Díaz-Canel a une fois de plus blâmé les États-Unis pour leur rôle interventionniste dans les manifestations antigouvernementales contre le ralentissement économique de son pays. La Havane affirme que la crise économique a été causée par un demi-siècle de sanctions et d'embargos des États-Unis contre les Cubains. Pendant ce temps, Cuba a rétabli l'accès à Internet et a temporairement levé les restrictions sur la quantité de nourriture et de médicaments que les voyageurs pouvaient apporter dans le pays. Ces mesures étaient une concession apparente aux demandes des manifestants qui sont descendus dans la rue le week-end dernier. Des affrontements ont éclaté entre la police anti-émeute française et les manifestations anti-vaccination dans la capitale Paris. Les manifestants exprimaient leur colère contre le plan anti-Covid-19 du président Macron qui sera mis en œuvre le mois prochain. Le plan exigera un certificat de vaccination ou un test négatif pour autoriser l'accès aux lieux publics, y compris les restaurants et les cinémas. L'Inde désire développer ses relations avec le gouvernement d'Ibrahim Raïsi. Après la visite à Téhéran du ministre indien des Affaires étrangères, qui a remis au président élu iranien Ibrahim Raïsi le message écrit du premier ministre indien Narendra Modi, les analystes estiment que New Delhi porte un regard spécial sur ses relations avec l'Iran et qu'une fois les négociations nucléaires à Vienne arrivées à un résultat tangible, l'Inde reprendra l'achat du pétrole iranien. Suite à la victoire d'Ibrahim Raïsi à l'élection présidentielle en Iran, le premier ministre indien lui a adressé ses félicitations et a souhaité le développement des relations entre les deux pays. Le 7 juillet, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, qui se rendait à Moscou, a fait escale pendant quelques heures à Téhéran pour remettre à Ibrahim Raïsi le message écrit de Narendra Modi. Suite à cette rencontre, l'assistant du ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Rasul Mousavi, a déclaré aux journalistes que la rencontre du ministre indien avec M. Raïsi était brève, mais très importante. Nous sommes sûrs que cette rencontre sera la pierre angulaire d'une nouvelle phase des relations entre l'Inde et la République islamique d'Iran, sous la présidence de M. Raïsi, a-t-il déclaré. Au cours de cette rencontre, le président élu iranien a souligné que la stabilité et le développement des relations historiques entre Téhéran et New Delhi, notamment sur le plan économique, dépendraient de la volonté des deux parties à établir leurs liens uniquement sur la base de leurs intérêts communs. Il a fait allusion ainsi au fait que son gouvernement exigerait de l'Inde une approche indépendante et une résistance aux ingérences des superpuissances dans les relations bilatérales entre l'Inde et la République islamique d'Iran. De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères a invité de la part du Premier ministre Narendra Modi, le président élu iranien Ibrahim Raïsi a visité l'Inde. Quelques heures seulement avant cette rencontre à Téhéran, le Conseil des ministres à New Delhi avait examiné les moyens permettant à l'Inde d'entamer une nouvelle phase de ses relations avec la République islamique d'Iran. Mais quelles sont les relations économiques entre l'Inde et l'Iran? L'Inde a toujours été un client majeur du pétrole iranien. En 2019, un an après la décision de Washington de se retirer unilatéralement de l'accord nucléaire des grandes puissances avec l'Iran sur son programme nucléaire civil, l'administration de Donald Trump a annulé les exemptions faites à l'Inde pour acheter du brut iranien. Sous les pressions des États-Unis, le gouvernement indien a dû suspendre ses importations de pétrole iranien et les a remplacées par le brut du Mexique. Les Indiens ont été obligés aussi de conclure plusieurs accords avec les compagnies pétrolières américaines. Le pétrole n'est pas le seul secteur des relations économiques entre l'Inde et la République islamique d'Iran. Les deux pays coopèrent aussi dans le cadre du projet du développement et de la modernisation du port iranien de Chabahar. Et ce, alors que les sanctions illégales des États-Unis ont fait exception à ce projet stratégique tant pour l'Inde et l'Iran que pour plusieurs autres pays de l'Asie centrale et du Caucase, compte tenu de la possibilité du transit via le territoire iranien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder ce qui se passe actuellement au Liban. Si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte que le Liban traverse actuellement une crise politique et très particulièrement une crise économique grave. Comment peut-on expliquer cette crise économique du pays? Pourquoi le pays, en fait, a fini par aboutir, si vous voulez, à une telle situation? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Quelle est, en fait, la position de la résistance libanaise? Très particulièrement, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, sur ce sujet. Et comment expliquer cette inquiétude du côté israélien face à cette crise que traverse actuellement le Liban, parce que jusqu'à présent, les Israéliens avaient mis tout dans la balance pour affaiblir le Liban, pour affaiblir l'armée libanaise. Mais ironie de l'histoire, il y a des voix qui s'élèvent au sein du régime israélien pour, en fait, appeler les Occidentaux à venir au secours de l'armée libanaise. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, d'autant plus que les Israéliens sont très très inquiets de voir, en fait, la situation tourner en faveur de la résistance libanaise. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Eli Atem. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Maître Eli Atem. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission une analyste politique de franco-syrienne, spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation, merci à toute l'équipe de TV, à tous les téléspectateurs et à Maître Eli Atem.
Merci à vous, Madame Midani. Madame Midani, je viens de lancer le sujet, cette crise que traverse actuellement le Liban, en fait, surtout cette inquiétude du côté israélien, cette position de la résistance libanaise à cet égard. Pourriez-vous nous livrer, s'il vous plaît, votre analyse, Madame Midani?
En effet, la crise du Liban est très très importante aujourd'hui pour deux raisons. Alors d'abord, vous savez que depuis 11 ans, la société est agressée par les forces de l'OTAN et des États-Unis et Israël. La Syrie s'est bien opposée à l'ensemble des terroristes qui ont été dépêchés de tout un tas de pays. Et puis le Liban a aussi été agressé, rappelons-le, et aujourd'hui nous sommes au mois de juillet, c'est l'anniversaire, le 14e anniversaire de cette grosse agression contre le Liban en 2006. Donc la victoire du Liban, la victoire de la Syrie est absolument insupportable pour les pays hégémonistes, dominateurs comme les États-Unis qui ne cessent de déclarer que leur raison d'être est, enfin, leur principale stratégie, c'est de défendre l'existence de l'État israélien et sa pérennité dans la région. Or, effectivement, les différentes victoires du peuple libanais et de la résistance libanaise, et récemment d'ailleurs du peuple palestinien, font que effectivement Israël a commencé, je dirais, son déclin. Donc ça, c'est la raison indirecte, je dirais, et même permanente. Et puis l'autre aspect, c'est à partir du moment du 4 août, en fait, l'effondrement du port de Beyrouth, les manifestations qui ont été aussi provoquées le 17 octobre 2019, en fait, hein, tout ceci fait que la crise économique est importante. L'embargo américain par le Col César, le dit Col César, injuste et criminel, est appliqué sur le Liban. Il y a au Liban une division sur le plan politique entre des partisans des forces hégémoniques, des partisans de l'État, des États-Unis, des partisans inconditionnels aussi d'Israël, font que effectivement ils essayent de tout faire pour mettre la résistance en difficulté, et le front de la résistance, le front libanais, je dirais, de la résistance, ils voudraient le mettre en difficulté et mettre sur son dos tout un tas de responsabilités, à tort, bien sûr. Rappelons quand même la chose en 2005, lorsque le Rafik al-Hariri a été assassiné. Immédiatement, ils avaient mis les torts sur le dos de l'État syrien, puis par la suite sur le Hezbollah. Donc, tout ceci converge, en fait. Il y a une volonté depuis longtemps de mettre en difficulté la résistance libanaise au Liban, et puis surtout que les pays occidentaux se réemparent ou s'emparent du Liban complètement et terminent cette phase de victoire de la résistance pour la libération des terres libanaises et contre l'État israélien. Donc,
merci.
Effectivement, c'est une volonté réelle des pays de l'OTAN et des États-Unis et Israël, bien entendu.
On va revenir, Madame Midani, sur cette position des pays occidentaux et également du régime israélien. On va revenir plus tard sur ce sujet parce que c'est un point important que venez en fait de soulever. Maître Eliatem, vous avez entendu des explications de Madame de Aïssar Midani. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Vous savez, il faut savoir une chose. Il faut commencer par un constat qui est le suivant. C'est que vous avez deux pays diamétralement opposés. Deux modèles et deux systèmes qui sont opposés. En 1948, il y a eu la création de l'État d'Israël, qui est une ethnocratie, qui est fondée sur un régime qui est communautaire, et puis ça a été renforcé petit à petit jusqu'en 2017 et 2018 quand il y a eu cette fameuse loi qui veut que Israël soit un pays des juifs, alors que le Liban, c'est diamétralement opposé, c'est un pays multiconfessionnel comme l'a été la Palestine autrefois. Donc l'objectif israélien et américain, parce que quand même il y a une alliance américano-sioniste qui est celle de d'effriter les pays du Proche et du Moyen-Orient en créant des tensions et des conflits intercommunautaires, interconfessionnels ou transconfessionnels et transcommunautaires pour créer de nouveaux États, de mini-entités qui sont à l'instar de l'État d'Israël, c'est-à-dire des ethnocraties ou des régimes communautaires qui sont voués à s'entretuer entre elles. Et si vous vous souvenez, c'est d'ailleurs le projet qui a été opéré par des services secrets qui mettaient des gens les uns contre les autres, ou bien les groupes les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé en 75 au Liban, quand on a fomenté des troubles entre les Palestiniens et les Libanais. Les Palestiniens ont été approchés par des services étrangers américains en leur disant « Écoutez, regardez ce qui vous est passé en Jordanie, les Libanais vont vous mettre dehors ». Et les Libanais, ils sont venus approcher les Libanais en leur disant « Les Palestiniens vont prendre le Liban à la place de la Palestine ». D'où ce conflit, ce clash entre les Libanais et les Palestiniens, qui vite a conduit à une déstabilisation du pays du Cèdre, et une guerre intercommunautaire, et je ne dirais pas religieuse, parce que au départ c'était les chrétiens contre les musulmans, et après nous avons vu au sein des communautés chrétiennes des divisions, et après au sein des communautés musulmanes des divisions, et au sein même de chaque communauté, c'est-à-dire au sein de la communauté chiite, des dissensions et des conflits armés internes. Et puis après il y avait la Syrie qui est entrée également dans le jeu, et puis qui a été également entraîné par ces manipulations étrangères. Donc l'intérêt d'Israël, c'est de sauvegarder cette instabilité. Alors, le Hezbollah est arrivé, donc comme vous le savez, c'est un peu comme tous les mouvements politiques, il est intervenu sur le terrain, on n'a jamais pensé qu'il va obtenir un aval, je dirais communautaire, de la part des autres communautés libanaises, jusqu'à devenir un mouvement de résistance nationale, appuyée d'ailleurs beaucoup plus par des chrétiens que par les autres musulmans, aussi bien sunnites que chiites. Madame Midani a rappelé un élément qui est très important, c'est 2005, l'assassinat de Rafik Hariri, qui avait pour objectif, après cette restabilisation du Liban qui a eu lieu à partir de 1990, de recréer de nouveau des tensions intercommunautaires. Et c'est le Hezbollah qui a fait échouer cela. Et c'est la raison pour laquelle Israël est intervenu et frappé non pas le Hezbollah, mais toutes les infrastructures libanaises dans les endroits où le Hezbollah ne se trouvait pas. Donc son objectif n'était pas le Hezbollah, mais c'était le prétexte, soi-disant, de l'un des discours du Sayyid Nasrallah pour venir opérer cela, pour créer cette dissension et pour tout mettre sur le dos du Hezbollah. Ça n'a pas marché et les diverses communautés libanaises n'ont pas, si vous voulez, n'ont pas répondu présent à de nouveau au retour de cette guerre civile. La même chose, il y a eu plusieurs tentatives, y compris lors de la guerre en Syrie où le Hezbollah est allé combattre Daesh. Et d'ailleurs, le patriarche maronite avait dit que s'il n'y avait pas le Hezbollah, Daesh serait arrivé aux frontières de Jounieh, qui est le fief des chrétiens. Donc, que s'est-il passé récemment en 2019? Donc, en 2019, il y a eu une crise financière qui était téléguidée par les États-Unis. Pourquoi? En fait, la Banque centrale, elle a toujours donc des réserves, d'une part, et d'autre part, des avoirs. La dette de l'État libanais est monté jusqu'à 127 milliards de dollars. Parallèlement, le Fonds monétaire international, la Banque internationale et le programme Cèdre ont arrêté subitement les aides pour le Liban pour empêcher l'État libanais de faire face à sa dette. C'est ce qui a créé cette crise financière et qui l'a renforcée. En plus, il y a également les sanctions contre la Syrie et la loi César qui ont créé une crise financière inouïe, c'est-à-dire les banques ont du jour au lendemain interdit les transactions financières et ont bloqué les avoirs des gens, en fait, des épargnants, et ce qui a créé une crise économique qui est, si vous voulez, la résultante, la conséquence de cette crise financière, avec cette inflation, c'est-à-dire cette dégringolade de la livre libanaise, et qui est passée de 2019 à aujourd'hui de 1500 livres le dollar à 20 000 livres le dollar. Et tout cela, si vous voulez, pour créer un certain sentiment que cela est dû au fait que le Hezbollah participe au gouvernement, que le chef de l'État, le général Aoun, et qu'une partie donc des chrétiens, des maronites, sont les alliés du Hezbollah et de ce fait de créer une certaine dissension, une tension surtout entre les sunnites et les chiites. Et bien entendu, les chrétiens sont divisés entre des pro-sunnites et des pro-chiites. Et il y a eu de ce fait-là toutes ces interventions de la part des chancelleries pour créer des mouvements populaires, pour retourner de nouveau à la caisse de départ, c'est-à-dire créer cette tension. Entraîner le Hezbollah dans cette guerre. Or, le Hezbollah, malgré toutes les attaques qu'il a subies, n'a pas répondu d'une part à Israël et d'autre part à ses provocations et n'est pas tombé dans cette guerre civile, ce que d'ailleurs le Seyyed Nasrallah a toujours déclaré pour apaiser ses tensions et ne pas tomber dans le piège israélien qui, pour amplifier encore les choses, a profité de l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth. Cette explosion, d'ailleurs, dont les circonstances sont très obscures jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, le chef de l'État, le président Michel Aoun, le président de la République, avait parlé d'une éventuelle attaque par des missiles et que beaucoup d'observateurs ont vu, et certains même israéliens ont parlé éventuellement d'une action du Mossad israélien.
Donc, merci beaucoup.
Aujourd'hui, rien n'est clair, on ne peut pas le confirmer, mais c'est une hypothèse et qui d'ailleurs, Israël qui a toujours voulu favoriser le port de Haïfa au profit du port de Beyrouth. Et donc, c'est ce qui explique la situation dramatique que vit aujourd'hui le pays du Cèdre.
Madame Midani, vous avez suivi les explications, l'analyse de Maître Eliatem. Maître Eliatem qui estime que voilà, la crise économique actuelle est la conséquence la conséquence de la crise financière. Maître Eliatem a expliqué qui a été, si vous voulez, décidé par des institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale en ce qui concerne l'arrêt de l'aide au Liban. Maître Eliatem estime que voilà, cette crise vise le Hezbollah libanais, la résistance libanaise, parce que son objectif est en fait d'encourager les Libanais à s'insurger contre le Hezbollah libanais et la résistance libanaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Effectivement, cette crise vise, d'ailleurs, ils le disent, ils ne le cachent pas, sans arrêt, ils reviennent à vouloir accuser le Hezbollah et puis le Fonds libanais de la résistance. Ils essayent aussi de créer des dissensions et des diversions au sein même du camp de la résistance, en fait, donc entre le général Aoun et le Hezbollah, entre le mouvement Amal et le Hezbollah, entre le mouvement Barada et le Hezbollah. Mais en fait, il y a quand même une conscience, je dirais, nationale de l'ensemble des forces de la résistance qui font qu'ils n'arrivent pas à créer ces diversions et ces dissensions. Même, ils visent aussi une guerre civile à nouveau, mais effectivement, la haute conscience, je dirais, nationale de Hezbollah fait qu'il ne répond pas à ces provocations, même parfois des provocations confessionnalistes. Ça, c'est un point qui est très vrai. D'un autre côté, je voudrais dire aussi, là, aujourd'hui, l'enjeu est très important. On voit que Macron, du jour au lendemain, débarque à Beyrouth le jour de l'explosion du port en jouant comme si c'était un mécène, je viens vous aider, etc. D'un côté, essayant de se trouver une place, en fait, dans cette... à nouveau au Liban, faisant référence aussi à la période du mandat français sur le Liban, comme si il voulait renouveler le mandat et toute la situation de soumission aux forces coloniales. Il y a aussi la Turquie qui débarque aussi avec des forces en fait qu'ils animent et qu'ils essayent d'activer, essayant d'attiser les contradictions, mais aussi on a vu hier, même pas hier en fait, l'Europe, l'Union européenne qui veut imposer une certaine politique, donc ils veulent bien permettre des prêts qui seraient alloués au Liban, mais à condition que le Hezbollah soit en dehors du nouveau gouvernement. Donc les États-Unis aussi, on voit quand même que l'ambassadrice des États-Unis, elle navigue d'un ministère à l'autre et puis de responsable en responsable. Elle est même allée récemment avec la ministre française de la Défense, en fait, ou des Affaires étrangères, qui est allée consulter les Saoudiens pour l'état, la formation du gouvernement libanais. En fait, toutes ces ingérences manifestes, ouvertes, visent à reprendre sur le Liban à nouveau un mandat international ou un mandat, donc une sorte de mandat qui brise à la souveraineté libanaise et qui porte une atteinte très très profonde à l'ensemble à l'indépendance et à la souveraineté du Liban. Mais tout ceci en attisant cette crise monétaire et en leur interdisant d'ailleurs, en interdisant aux Libanais de s'orienter vers les offres qui sont sans condition, les offres inconditionnelles qui ont été faites aussi bien par l'Iran déjà pour le pétrole, par la Chine pour la reconstruction du port et qui serait payée en monnaie libanaise, en monnaie nationale. L'offre récente russe, on va voir comment ils vont y répondre, mais ça n'a pas empêché l'Union européenne d'augmenter, de mettre sur des personnalités libanaises des sanctions qui ont été faites hier et c'est une aberration et une ingérence la plus flagrante du monde. Dernier point, je pense qu'il est important aussi de voir que le Liban a les moyens de sortir effectivement de cette crise en prenant la décision politique justement de profiter de ces offres qui sont sans des offres des pays amis qui sont sans conditions, sans atteinte à la souveraineté du pays, mais en tout respect non seulement de la souveraineté mais aussi en tout respect au niveau de du contrat et de l'exploitation du pont qui serait gagnant-gagnant et
merci
l'exploitation de l'ensemble du pétrole qui serait dans des conditions de respect mutuel.
Maître Eliatem, très rapidement, parce que nous avons 2 minutes devant nous, un dernier mot sur ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Idani au sujet, par exemple, d'un possible envoi des pétroliers iraniens vers le Liban et d'une possible intervention de la Russie et de la Chine dans le pays.
Ben, tout à fait, parce que vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit personnellement, pourquoi cette option occidentale et américaine? Quel intérêt le Liban a-t-il de rester entre les bras des États-Unis et de certaines puissances occidentales qui ne font que détruire le pays du cèdre? Bon, certes, le Liban a des relations historiques et millénaires avec la France. La France a essayé d'aider le pays du cèdre et nous avons vu comment est-ce que le lobby sioniste a tout fait pour compromettre cette initiative française et empêcher le président Macron d'aller plus loin. Alors, deuxièmement, nous avons des options, donc que ce soit, comme a dit tout à l'heure Madame Mizani, donc il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, notamment pour le pétrole, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Telles sont ces options. Il faut se tourner plutôt vers le monde libre et non pas le monde hégémonique qui est téléguidé par les États-Unis et qui exerce cette hégémonie, d'ailleurs, sur l'Union européenne et sur certains pays membres de l'Union européenne. C'est ce qui explique, d'ailleurs, ces sanctions contre certaines personnalités libanaises, ce qui est unique et ce qui est constitue, comme Mme Midani a dit, une ingérence dans les affaires internes d'un État souverain et indépendant qui est le Liban.
Merci beaucoup, Maître Eliatem, d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci beaucoup pour votre analyse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Hamidani, d'avoir été avec moi pour cette émission. Et merci beaucoup pour votre analyse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Un élément de Daesh tué dans une embuscade au nord de l'Irak, selon un communiqué du ministère irakien de la Défense. Un terroriste de Daesh a été tué dans une embuscade tendue par les forces irakiennes dans le nord du pays, selon un communiqué officiel. La cellule des médias de sécurité, affiliée au ministère irakien de la Défense, a déclaré ce samedi dans un communiqué que les forces irakiennes avaient tendu une embuscade à un élément de Daesh tard dans la soirée du vendredi dans la province de Kirkouk, et de faire savoir que les forces avaient pu l'encercler et le tuer dans le village de Lesan, dans le district de Rachad, au sud-ouest de Kirkouk, sans fournir de plus amples détails. L'armée et les forces de sécurité en Irak mènent de manière quotidienne des opérations contre les éléments de Daesh dans tout le pays, compte tenu de la fréquence élevée des attaques perpétrées par les éléments présumés de Daesh, en particulier dans la zone entre Kirkouk et Salaheddin au nord, ainsi qu'à Diyala à l'est, un secteur connu sous le nom de triangle de la mort. En 2017, l'Irak a déclaré la victoire sur Daesh en restaurant sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, envahi par l'organisation terroriste en été 2014, et qui était estimé à environ un tiers de la superficie du pays. Cependant, l'organisation terroriste maintient toujours des cellules dormantes dans de vastes zones de l'Irak et lance des attaques sporadiques contre diverses cibles. Au Mozambique, des troupes rwandaises ont été déployées pour lutter contre les terroristes takfiristes. La lutte contre l'insurrection takfiriste dans la province de Cabo Delgado s'organise enfin. Le Rwanda a entamé le déploiement de 1000 soldats au Mozambique afin d'appuyer le pays dans sa lutte contre l'insurrection takfiriste dans la province de Cabo Delgado dans le nord du pays. Le gouvernement rwandais a déclaré que ses troupes militaires et policiers se battraient aux côtés de l'armée mozambicaine et des forces de la Communauté de développement de l'Afrique australe, et le contingent rwandais soutiendra les efforts visant à restaurer l'autorité de l'État mozambicain en menant des opérations de combat, de sécurité, ainsi que de stabilisation et de réforme du secteur de la sécurité, a précisé samedi le gouvernement rwandais, qui a déjà déployé des troupes en Centrafrique de décembre 2020 à la fin du mois de mai 2021. Par ailleurs, on attend toujours des précisions sur le déploiement de troupes annoncées par la Communauté de développement de l'Afrique australe. Les 16 membres de cette communauté, dont le Rwanda ne fait pas partie, ont approuvé le mois dernier le déploiement d'une force conjointe pour aider le Mozambique à reprendre le contrôle de la province, théâtre depuis 2017 d'une insurrection liée au groupe Daesh. Cette force devrait rassembler 2900 soldats déployés initialement pour 3 mois. Les forces démocratiques syriennes recensent les femmes et les enfants de djihadistes marocains. Ce recensement est un prélude au rapatriement des femmes et des enfants de combattants marocains de l'organisation Daesh et du front al-Nusra, détenus dans les camps des forces démocratiques syriennes. Les forces démocratiques syriennes, FDS, proches des États-Unis, ont entamé le recensement des femmes et enfants de djihadistes marocains de Daesh et d'al-Nusra, toujours détenus dans les camps d'al-Hol et d'al-Nusra. Les FDS ont informé les femmes et leurs enfants de la nécessité de se présenter à l'un des bureaux pour les recenser et vérifier leur identité. Cette étape est considérée par les sources sur le terrain comme un prélude au rapatriement des femmes et enfants de djihadistes marocains de Daesh et d'al-Nusra, qui sont détenus dans les camps des forces démocratiques syriennes. D'autant plus que la même procédure a été appliquée avec des femmes et des enfants d'autres nationalités avant leur rapatriement. Selon la Coordination nationale des familles des Marocains détenus en Irak et en Syrie, 89 femmes et 251 enfants sont actuellement détenus en Syrie, en plus de 113 combattants. Cette décision intervient au lendemain de l'appel du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lors d'une réunion de la coalition contre le groupe Daesh. Le successeur de Mike Pompeo a exhorté ses alliés à rapatrier les combattants et leurs proches détenus dans les camps syriens, estimé à 10 000. Cette situation est tout simplement intenable. Il ne peut tout simplement pas persister indéfiniment, avait-il déclaré, en exhortant les pays, y compris de la coalition, à rapatrier, réhabiliter et, le cas échéant, poursuivre en justice leurs citoyens. Au Maroc, la mission parlementaire, présidé par le député et secrétaire général du PAM, Abdellatif Rouabi, continue son travail en recueillant les informations sur les femmes et les enfants des combattants marocains détenus en Syrie et en Irak. Cette mission parlementaire a d'ailleurs rencontré le ministre d'État chargé des droits de l'homme, Mustapha Ramid, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi qu'un groupe de revenants des zones de conflit après avoir purgé leur peine. Coupé du reste du Burkina Faso par les terroristes takfiristes, Madjouari se vide de ses habitants. Assiégés par des terroristes, les habitants de cette localité ont vidé les lieux après avoir appelé au secours depuis des semaines sans succès. Certains auraient traversé la frontière pour se réfugier au Bénin. Madjouari est une commune fantôme située à une centaine de kilomètres de Fadan Gourma, la grande ville de l'est du pays, est assiégée par des hommes armés depuis des semaines. Les terroristes menacent de faire sauter le pont de Singou pour couper définitivement la commune du Burkina Faso. Nous voulons continuer d'être burkinabés. Nous voulons vivre sur la terre de nos ancêtres. Nous ne voulons pas être déplacés dans notre propre pays, a dit un habitant. Le maire de Madjouari a déclaré « D'une population de 14 000 habitants, il ne reste que 1000 habitants. Tous les autres ont quitté. Les autorités doivent prendre cette menace au sérieux étant donné que la situation est déjà assez dégradée. C'est une zone qui a déjà des problèmes de sécurité », a déclaré Mohamedou Savadogo, expert en sécurité. En attendant, les populations continuent de fuir pour rejoindre d'autres localités et le Bénin voisin.